بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous. Aujourd'hui le dimanche, le 20 du mois sacré d'Allah al-Muharram de l'année 1448 de l'Hégire, correspondant au 5 juillet 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos très chers frères du centre Al-Furqan de Bruxelles pour étudier ensemble cette risala de notre noble cheikh, cheikh Al-Allama Abdallah Al-Bukhari, qu'Allah le préserve et prolonge sa vie dans son obéissance, ainsi que tous les savants de la sunna. On s'est rendu au 7e point de cette risala, qui est le dernier avec lequel nous allons terminer cette série, que j'espère qu'elle me sera profitable à moi le premier, et ainsi qu'à tous mes frères et sœurs qui l'ont suivi ou qui l'ont écouté. Ce 7e point, qui est une conclusion de cette risala et dans laquelle Cheikh Hafidhahullah a cité plusieurs paroles de Salaf qui sont d'une grande importance. Et si on veut s'attarder sur chacun d'entre eux, en particulier le premier, du calife Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, peut servir comme épître de l'étude, de la croyance et de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Rien que cette citation, elle peut servir comme épître d'étude de la croyance et de la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et ça, nous allons le voir ensemble, incha'Allah ta'ala, lakin, d'une manière très succincte, qui correspond au temps qui nous est accordé pour terminer ce 7e et dernier point. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous une bonne fin et de prendre notre âme sur le tawhid pur et purifié de toute forme d'associationnisme, apparente ou cachée, majeure ou mineure, et de nous raffermir sur la voie de nos pieux prédécesseurs jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien avoir changé de notre religion, de notre belle religion. Donc, Cheikh Hafidhahullah commence, il dit: مر معنا أيها الأحبة في هذه الجولة المختصرة تقريرات مهمة. Il dit que nous avons vu, chers bien-aimés, au cours de ce bref tour d'horizon, d'importantes affirmation et enseignement. يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها أو وفكاكها وفكاكها على يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها لزوم ما دلت عليه من التمسك بالأمر العتيق طريقة سلف الأمة الصالح. Donc, ce sont des enseignements très importants que nous avons vus d'une manière brève et succincte. Et quiconque est soucieux de sa propre sauvegarde et de son propre salut et de sa délivrance se doit de s'attacher fermement à celle qu'elle implique. S'attacher à la voie originale, l'amr al-atiq, la voie originelle qui est la méthodologie des pieux prédécesseurs, as-salaf salih. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans sur al-kaf, dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Qu'il fasse de bonnes actions, Nous avons vu à maintes reprises que les bonnes actions, c'est celles qui remplissent deux conditions. La sincérité, que tu les fasses pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Tu n'espères rien d'autre que l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni les éloges des gens, ni leur estime, ni leur respect, ni leur admiration, ni un statut, ni un pouvoir, ni un salaire, ni de l'argent, ni rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwa, celui qui ne fait pas les choses sincèrement pour Allah, ça ne sert à rien qu'il se fatigue. Fais pour Allah. Si tu veux le salaire auprès d'Allah et la récompense auprès d'Allah, si tu veux auprès des gens, alors tu auras ce que tu as voulu. Et Allah est juste même dans ça. Si tu œuvres en voulant quelque chose de dunya, Allah il te la donne. C'est pour ça que vous trouvez les gens qui ont un certain côté humain parmi les mécréants et qui aimaient aider les gens et les pauvres et qui ont fait ça pour la célébrité, Allah leur a donné la célébrité. Celui qui fait les choses pour l'argent, Allah lui donne l'argent. Lakin, il n'aura rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Cela ne rend dans l'au-delà que le feu. Car ils n'ont rien fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je l'ai entendu de certains athées qui disent pourquoi un tel parmi les mécréants qui faisait énormément de bien, pourquoi il va en enfer? On lui dit l'exemple et la parabole qu'Allah a donné dans le Coran. Si tu avais un esclave à l'époque où ça existait, avant que l'islam ne mette fin à ce phénomène qui a existé avant l'islam. Donc, si tu avais un esclave et qu'il travaillait, et le fruit de son travail, il le donnait à autre que toi, est-ce que tu seras satisfait de cela? Ces gens-là, ils ne font pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est lui qui les a créés. C'est lui qui leur a tout donné. Et malgré ça, ils œuvrent pour autre que lui. Et ils espèrent une récompense auprès de lui. Bien évidemment que ce n'est pas ainsi que ça se passe. Taïb. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc j'ai dit les deux conditions pour que les œuvres soient pieuses, c'est la sincérité et la conformité à l'enseignement, à la tradition du prophète عليه الصلاة والسلام. Il n'est pas question de faire ce qui te semble bien. Il est question de faire ce que Allah t'a ordonné de faire, tout simplement. Regardez. Le prophète, qui a une profonde compréhension de la parole d'Allah. Il est rapporté de lui que parmi les versets qui étaient lourds pour lui, difficiles, la parole d'Allah, « Fastaqim kama umirt ». Allah lui dit « Conforme-toi à la droiture comme il t'a été ordonné, et non pas comme bon te semble, ou là comme ta raison te le dicte, ou là comme ta passion te le dit. » Non. Tu dois te conformer à la droiture comme Allah t'a ordonné. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère la rencontre, espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. Et invoque Allah fréquemment. Donc, le signe de ceux qui invoquent Allah fréquemment et qui espèrent la rencontre d'Allah et qui croient en la résurrection après la mort, c'est qu'ils prennent le messager d'Allah alayhi wa sallam comme modèle et comme exemple dans toutes leurs adorations. Donc ceux qui prennent le prophète alayhi wa sallam comme modèle dans toutes leurs religions, ce sont ceux-là en réalité qui croient en Allah en toute vérité et qui espère la rencontre d'Allah et qui croit au jour dernier, c'est-à-dire la vie après la mort, et qui invoque Allah et qui l'évoque beaucoup. وهنا أزيد على ما سبق نقله عن الأئمة من حظهم وحثهم وأمرهم بلزوم طريقة السلف الصالح كلمات نيرات مضيئة. Donc Cheikh il dit qu'il va, après ce qui a été cité précédemment, il va rapporter des imams concernant leurs enseignements et leurs exhortations et leurs incitations et leur ordre de se conformer à la voix des pieux prédécesseurs. Il va ajouter des paroles lumineuses et éclairantes afin que nous nous en rappelions, car le rappel profite aux croyants. Et voici quelques exemples. Il a commencé avec la parole de l'imam, le gouverneur, le calife, Omar ibn Abd al-Aziz. Le calife, bien, Omar ibn Abd al-Aziz. Donc, Omar ibn Abd al-Aziz, c'était parmi les califes qui étaient bien guidés. Mais en général, on ne dit pas de lui un calife bien guidé, car ça se dit des quatre premiers compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Donc, il n'y a pas de mal si on dit que c'est un calife bien guidé, sans sous-entendre par cela. Et c'est ça le piège, mes frères. Aucune diminution ou aucun dénigrement à l'égard du calife qui l'a précédé, qui fait partie des compagnons, et qui est bien évidemment meilleur que lui, Muawiyah radiallahu anhu. Et en général, ceux qui disent de Omar ibn Abd al-Aziz un calife bien guidé, ils sous-entendent un dénigrement à l'égard de Muawiyah radiallahu anhu. C'est pour ça Abdullah ibn al-Mubarak, le grand imam parmi Tabi'i, quand il a été interrogé, qui est meilleur, Omar ibn Abd al-Aziz ou Muawiyah, pour voir que cette maladie, elle a commencé très tôt dans la communauté. Il leur a dit, écoutez, vous savez qui est Abdullah ibn al-Mubarak, bien évidemment, le grand imam, le grand savant parmi Tabi'in, le grand pieux, celui qui avait énormément de science et qui a participé dans beaucoup de batailles. C'était un grand mujahid. Et c'était un homme très riche, faisait énormément de sadaqa. Il prenait avec lui ses frères pour le pèlerinage, il prenait d'eux leurs dépenses, comme s'il allait dépenser sur eux de ce qu'ils ont ramené avec eux, et au retour du pèlerinage, il leur rend à chacun son argent. Comme ça, ils ne se sentent pas yani, rabaissés, c'est lui qui dépense sur eux. Comme s'il dépensait sur eux de leurs propres biens, et au retour du pèlerinage, il leur rendait leurs biens. Rahimahullah. Il a répondu en disant, un grain de poussière dans le nez de Muawiyah est meilleur que Omar ibn Abd al-Aziz, toute la vie de Omar ibn Abd al-Aziz. Comment comparer un compagnon qui a combattu avec le messager d'Allah, qui a été choisi pour écrire le Coran par le prophète, qui est le frère de la mère des croyants, Maymouna, radiallahu anha, Khalu al-Mu'minin, l'oncle maternel des croyants, Muawiyah, avec les nombreux mérites qu'il a. Comment le comparer avec quelqu'un qui ne fait pas partie des compagnons? C'est pour ça, chez Al-Sunnah al-Jama'a, il ne viendra pas un homme après les compagnons qui sera meilleur que les compagnons d'une manière absolue. Il peut dépasser un compagnon, par exemple, dans la science, comme ils disent de Saïd ibn al-Musayyib. Saïd ibn al-Musayyib, c'est un tabi'i. C'est parmi les chouyours de l'imam Malik. C'est un tabi'i. Lakin, ils disent qu'il avait plus de science que certains compagnons. Lakin, il ne sera jamais supérieur au compagnon qui a le degré le moins élevé. Il n'est pas meilleur que lui. Car celui qui a vu le prophète A.S. n'est pas comme celui qui ne l'a pas vu. Et ça, c'est le bienfait d'Allah. Et c'est le mérite d'Allah, et c'est les faveurs d'Allah, et les grâces d'Allah, il les accorde à qui il veut. C'est comme ça chez Al-Sunnah al-Jama'a. Ils aiment tous les compagnons, ils savent qu'ils ont des degrés différents. Abu Bakr, c'est pas Omar, Omar, c'est pas Uthman, Uthman, c'est pas Ali, et ainsi de suite. Lakin, on parle jamais au mal donc d'aucun d'entre eux. D'aucun d'entre eux. Et on ne croit pas qu'ils sont infaillibles. Ce n'est pas des anges, ce n'est pas des prophètes. Lakin, c'est les meilleurs hommes qu'Allah a créés après les prophètes et les messagers. Lakin, on ne parle jamais en mal d'eux. Nabi Asasam nous a dit dans un ordre explicite, « Iza dhukira ashabi fa amsiku » Quand mes compagnons sont cités, alors abstenez-vous de dire du mal d'eux. Abstenez-vous de dire du mal d'eux. Quelqu'un qui nous a transmis la religion, quelqu'un qui a combattu, quelqu'un qui a cru en Allah, à une période où il y avait quelques croyants seulement, où la religion était vue comme quelque chose de bizarre, ils les appelaient Sabi'a, les apostats, car ils ont délaissé la religion de leurs ancêtres. Tu ne peux pas le comparer à quelqu'un qui est entré en islam après la conquête de Mecca. Là, du moment que c'est un compagnon, il n'est pas autorisé de dire un seul mal de lui. C'est comme ça, Al-Sunna wal-Jama'a. Taïb. Donc la première, c'est la parole de cet imam, Omar ibn Abdel Aziz. Et remarquez que Cheikh n'a pas utilisé le terme calife bien guidé, malgré qu'il était bien guidé. Lakin, car la plupart de ceux qui l'utilisent, ils sous-entendent un dénigrement par rapport à celui qui l'a précédé, car ils ne disent pas de lui bien guidé. Et ils croient qu'il est meilleur. Donc il a été interrogé, Omar ibn Abdel Aziz a été interrogé par un de ses responsables, ceux qui étaient responsables de certaines régions, l'Ummal. Il l'a interrogé au sujet de l'ahwa, les passions, yani les innovations. L'ahwa, yani, les salafs, ils appelaient l'innovation passion, car ce n'est pas basé sur la révélation. Et sachez mes frères, qu'il y a deux catégories de gens sur terre seulement, de ce point de vue. Des gens qui suivent la révélation, et les autres, tous, ils suivent la passion. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Écoutez ce verset. Allah Azza wa Jalla dit, « فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ » S'ils ne répondent pas à ton appel, qui est l'appel de la révélation, sache qu'ils suivent leur passion. Donc, ou bien tu suis la révélation, ou bien tu suis la passion. Et toutes les innovations, c'est un suivi de la passion. Car ça n'a rien à voir avec la révélation. Ça n'a pas été légiféré. Ça n'a pas été révélé. Taïb. C'est pour ça que Salaf, il les appelait les gens de la passion. Il lui a répondu à cette question en disant « Amma ba'd, fa'inni usik » Cela étant dit, je te recommande la piété, at-taqwa, la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa. Taqwa, c'est, on peut la traduire par la piété, on peut la traduire par la crainte, et en réalité ici, ça va englober les deux. Il y a des contextes où taqwa va désigner seulement la crainte d'Allah. Il y a des contextes où taqwa, ça va désigner seulement le fait de faire le bien. La piété. Et en général, ça va englober les deux. Taïb. C'est pour ça que la traduction, c'est toujours quelque chose d'approximatif. La langue arabe est tellement vaste et comporte tellement de styles que ce n'est pas possible de traduire littéralement, de traduire exactement, mais c'est une traduction qui permet de rapprocher les sens. Ensuite, il lui a dit, « Et je te recommande la modération dans l'application de ces ordres, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. » La modération, yani d'être dans le juste milieu. L'iqtisad, c'est d'être dans le juste milieu. C'est d'être dans le suivi, tout simplement. De ne rien rajouter et de ne rien diminuer. C'est ça l'iqtisad. Et c'est ça la modération en réalité. Et je te recommande la modération dans l'application des ordres d'Allah. Le suivi de la sunna de son prophète, alayhi salam, et le délaissement des nouveautés introduites par les innovateurs après lui, alors que même que sa sunna s'est déjà établie et qu'ils ont été dispensés de cette peine, yani de rajouter quelque chose de la religion, dans la religion. Il n'aurait pas été demandé de rajouter quelque chose dans la religion parmi les adorations. Il leur a été demandé seulement de suivre ce qui a été révélé. Ensuite, il a dit « Fa'alayka biluzumi sunnah ». Fa'alayka biluzumi sunnah. Alors, attache-toi donc fermement à la sunnah, car elle est pour toi, par la permission d'Allah, une protection. Fa'innaha laka bi'idnillahi isma. Le suivi de la sunna, c'est une protection pour toi de tomber dans l'exagération ou de tomber dans le laxisme. C'est ça la modération. C'est suivre l'islam tel qu'il a été révélé, comme il a été compris par les compagnons radiallahu anhum. فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِسْمَ وَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يُحْدِثُوا بِدْعَةً إِلَّا وَقَدْ مَضَى قَبْلَهَا مَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا وَعِبْرَةٌ فِيهَا. Et sache que les gens n'ont pas introduit une innovation dans la religion sans qu'il n'y ait eu avant elle un argument qui l'a réfuté ou une leçon la concernant. Et en général, comme dit Cheikh l'Islam Taymiyyah, à chaque fois qu'un innovateur s'appuie sur un verset du Coran ou un hadith pour légitimer son innovation, tu peux le réfuter du même argument qu'il a utilisé pour légitimer son innovation. Par exemple, vous savez que ceux qui fêtent l'anniversaire du prophète, ou bien ils vont se baser sur des hadiths faibles, qui ne sont pas authentiques, et où ils peuvent se baser sur quelque chose d'authentique. Le Nabi Aïssa Salam a été interrogé, pourquoi il jeûnait le lundi? Il a dit, c'est un jour dans lequel je suis né. Donc ils ont dit, regardez, le Nabi Aïssa Salam, il célèbre le jour de sa naissance en le jeûnant. Donc c'est autorisé de célébrer ce jour en faisant dhikrullah, en faisant des adorations. La réponse se trouve dans le même dalil qu'ils ont utilisé. Comment le Nabi A.S. a célébré sa naissance, si on peut appeler ça une célébration? En jeûnant, ne leur disant c'est une sunna de jeûner le lundi. Amma, tu rajoutes d'autres choses, c'est pas autorisé. Et Cheikh l'Islam, il a fait un livre dans lequel il détaille cette question. Que à chaque fois qu'un innovateur s'appuie sur un dalil, ou bien ça ne sera pas authentique. Et quand c'est authentique, le même argument permet de le réfuter, sans chercher ailleurs. C'est pour ça que nous disons à Aïkhoa que pour être dans l'islam authentique, il y a une chose fondamentale, c'est la compréhension des textes. Il y en a, tu peux trouver des égarés aujourd'hui qui ramènent des versets de le Coran, lakin qui les interprètent à leur manière, comme ils veulent, en leur disant qui a compris ça comme ça, de ce verset. Est-ce que Abu Bakr a compris ça? Non. Est-ce que Omar radiallahu anhu a compris ça? Non. C'est pour ça que nous appelons les gens à suivre le Coran et suivre la sunna authentique. Le Coran, on ne dit pas authentique. Yani, c'est une certitude qu'il provient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, dans la sunna, il y a des gens qui ont menti, qui ont des faiblesses dans la mémorisation. Allah subhanahu wa ta'ala a permis à nos savants de filtrer tout ça et de savoir ce qui est rapporté avec certitude de Nabi A.S. Et le hadith dans lequel il y a le moindre doute, il n'est pas accepté. Si vous rentrez dans cette science, vous allez voir une minutie, une précision incroyable. C'est pour ça, en général, les gens qui excellent dans la science du hadith, c'est des gens qui sont de nature très minutieuse et très précise. Cheikh Al-Albani, c'est un horloger. Et tous ceux que j'ai connus qui ont excellé dans cette science, ils ont cette caractéristique. C'est des gens très précis, très minutieux. Je pense notamment à un de nos frères qui est un docteur qui enseigne dans la ville de Nador, qui s'appelle Dr Abu Hazim Abdel Nasser, qu'Allah le préserve. Étant donné que je l'ai connu de très près, c'est quelqu'un qui est très minutieux dans sa vie. Allahumma barik, qu'Allah le préserve. طيب فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها من الخطأ car la sunna a été instituée que par celui en réalité la sunna n'a été instituée que par celui qui connaissait parfaitement les erreurs, les faux pas, la sottise et le zèle que recèle son opposition. L'opposition de sunna qui est le bid'ah. Ça, Abdullah ibn Omar, il te donne une règle très simple. Il te dit kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasan. Chaque innovation est un égarement, comme bien même les gens la voient comme un bien. Est-ce qu'il y a plus explicite que ça? Il te dit, même si les gens ils commencent à te dire oui, mais il y a tel bien, est-ce que le Nabi l'a fait? Est-ce qu'il l'a enseigné? Non, il n'y a pas de bien. Allah connaît mieux notre bien. Et ensuite, il lui dit, agrée donc pour toi-même ce que... Il lui a dit, farda li nafsika ma radiya bihi al-qawm li anfusihim. Donc, il lui dit, agrée pour toi-même ce que ces gens ont agréé pour eux-mêmes, c'est-à-dire les compagnons. Agrée pour toi, pour ta personne, yahi. Sois humble. Accepte et agrée pour ta personne ce que les compagnons ont agréé pour eux-mêmes, alors qu'ils sont l'élite de cette communauté. C'est pour ça que certains savants parmi les salafs disent « Man lam yasa'hu ma wasi'a »« As-sahabata radiyallahu anhum, fala wasa'allahu alayhi » Celui qui ne s'est pas contenté, de quoi se sont contentés les compagnons dans leurs adorations, qu'Allah n'élargit jamais son affaire, qu'il soit toujours dans la contrainte est dans la difficulté et dans l'étroitesse. Car ils parlent toujours des compagnons. Regardez Omar ibn Abdelaziz. La description qu'il fait des compagnons. Écoutez avec moi, mes frères. Il dit, car ils sont les devanciers. Et c'est en toute connaissance de cause qu'ils se sont arrêtés. Pourquoi ils n'ont pas fêté l'anniversaire du prophète ? Il te dit, en toute connaissance de cause, qu'ils ne l'ont pas fêté. C'est pas qu'ils ne savaient pas. Là, c'est une pratique qui existait. Là, qu'ils ne l'ont pas fait, en toute connaissance de cause, et avec une clairvoyance perçante, qu'ils se sont abstenus. Allahu Akbar. Ils étaient pourtant les plus aptes à dévoiler ces questions. Et s'il y avait eu un quelconque mérite, ils auraient été les plus légitimes à l'acquérir. Ils auraient été les plus légitimes à l'acquérir. Il poursuit, rahimahullah, en disant, si vous dites, des nouveautés sont apparues après eux, il répond à cette ambiguïté. Il te dit, oui, mais à l'époque des compagnons, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des choses nouvelles. On doit adapter le Coran, adapter le Sunna à notre société. Notre société a évolué. Vous entendez ce discours, n'est-ce pas? Alors, lui, il a présenté l'ambiguïté et il l'a réfutée déjà à l'époque. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, surtout chez les frères, ceux qui s'appellent les frères musulmans. Comme s'ils étaient les seuls frères musulmans. On est des frères musulmans, y'a quoi. Là, les savants, ils les appellent les frères faillitaires, car ils sont faillitaires de la science et de la sunna. L'ikhwal muflisin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tous et de les ramener à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et qu'ils soient profitables à eux-mêmes et à leur religion. Il dit qu'ils étaient les plus aptes à dévoiler ces questions. Tayyib. Ensuite il dit, et si vous dites des nouveautés se sont apparues après eux. Sachez que seuls s'y sont aventurés ceux qui ont divergé de leur voie et se sont détournés de leurs exemples Pourquoi il y a eu ces nouveautés? Pourquoi il y a eu ces nouveautés? Il a dit, les nouveautés, elles étaient inventées par des gens qui sont venus après eux. Et pourquoi ils les ont inventées? Parce qu'ils ont suivi autre voie que la voie des compagnons. Ils se sont écartés de la voie des compagnons et ils ont inventé certaines choses. Et en parlant toujours d'eux, il dit, ils ont décrit amplement et suffisamment. Il y a ni ces questions. Ils les ont décrites amplement et suffisamment bien. Et ce qu'ils ont énoncé est pleinement guérisseur. Il y a ni c'est suffisant. C'est un remède, ce qu'ils ont donné. C'est un remède à ces maux. C'est un remède à ces maladies pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis de suivre leur voie. فَمَا دُونَهُمْ مُقَصَّرُ Tout ce qui est en deçà, yani de leur rang, en deçà d'eux, relève du manquement. Et tout ce qui est au-delà d'eux, relève de l'excès. Et du rigorisme outrancier. Yani, si celui qui fait preuve de laxisme, il sera dans le manquement. Et celui qui fait preuve d'exagération par rapport à leur voix, il sera dans l'excès et dans l'outrance. Ensuite, il a dit, certains hommes sont restés en deçà d'eux et se sont ainsi égarés dans la négligence. D'autres les ont outrepassés et ont versé dans l'extrémisme. Quant à eux, ils se situent entre les deux, fermement ancrés sur une voie droite. Wa innahum bayna dhalika la'ala hudan mustaqim. Sur une guidée, une droiture. Les compagnons, ils étaient dans le juste milieu, dans la modération, qui est le suivi de la religion de l'islam telle qu'elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de sa citation. Sa parole a été rapportée par plusieurs savants parmi les salafs, notamment l'imam Al-Ajurri dans son livre très important, un des plus importants ouvrages de salaf qui s'appelle Sharia de l'imam Al-Ajurri. Et ce livre d'ailleurs a été expliqué et entièrement par Cheikh Rabi Al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde, édité en 4 volumes. En 4 grands volumes. Ensuite, il a cité la parole de un autre imam, l'imam Muhammad ibn Muslim al-Zuhri, un des chouyours de l'imam Malik. Et ils disent que l'imam Malik, quand l'imam Zuhri est venu à Médine, il a laissé de côté tous ses chouyours et il s'est contenté de prendre la science de l'imam Zuhri. L'imam Zuhri, un des plus grands mémorisateurs de cette communauté. Et malgré cela, ils lui ont dit, comment t'as fait pour mémoriser tout ce que tu connais? Il a dit, un jour je mémorise un hadith, un autre jour je mémorise 2 hadiths. La constance dans la demande de science. Une petite quantité, mais tous les jours. Ça, c'est des règles en or dans la demande de science. Et beaucoup de citations de ce grand imam Zuhri sont citées par les savants dans le domaine de l'apprentissage et de la méthodologie dans l'apprentissage et la demande de science. Donc, qu'est-ce qu'il disait l'imam Zuhri? Il dit, je vais vous lire directement, sans lire en arabe, je vais traduire directement pour gagner du temps. Yana, on doit terminer, Inch'Allah, dans un quart d'heure ou là, quelque chose comme ça. Ce qui reste. Taïb. Il dit, rahimahullah ta'ala, ceux de nos savants qui ont précédé disaient, s'attacher fermement à la sunna est un salut, est une sauvegarde, est une protection. Kana man mada min ulama'ina yaqul al-i'tisam bis-sunnati najat. Ça, c'est des citations qui doivent être mémorisées et utilisées dans les argumentations pour indiquer aux gens la voie de la droiture. Donc Zohri, ce grand imam, il dit que ceux qui l'ont précédé parmi les savants, les tabi'in et les compagnons, qu'est-ce qu'il disait? Il disait al-i'tisamu bis-sunnati najat. Le cramponnement, l'attachement ferme à la sunna est un salut. Et vous savez que beaucoup de savants comparaient la sunna au bateau, à l'arche de Noé, alayhi salam. L'arche de Noé, alayhi salam. Hadith est rapporté de l'imam Malik. Il comparait la sunna à l'arche de Noé, alayhi salam. C'est le même sens. La science sera reprise de manière fulgurante et rapide. Or, de la vitalité de la science dépend la stabilité de la religion. De quoi dépend la stabilité de la religion des gens? De la science et de la demande de science. Pourquoi notre communauté allait dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui? Car il n'y a plus de lien entre notre communauté et ses hommes de science. Une coupure presque totale. Et ce n'est pas seulement une coupure entre eux et les savants, ils ne reviennent jamais à eux. Non, mais en plus, sans avoir rencontré un seul savant dans leur vie, ils ont une image tellement noire et tellement mauvaise des hommes de science. Et qu'ils ne servent à rien, et que c'est que des corrompus. Et Wallahi, si tu rencontres un savant parmi nos savants salafis, t'auras honte, rien que le voir, t'auras honte de tenir des propos comme ça. Rien que de le rencontrer, il ne parle pas. Tu verras que ce n'est pas possible, ça ne lui colle pas. Corrompu, l'argent, hein, il n'a rien de dunya. Et même s'il a dunya parce qu'il l'a gagné, il est où le mal? Abou Bakr, c'était un grand commerçant. Et cet homme, sa foi dans la balance, elle est plus lourde que toute la communauté. Le mal, c'est de prendre rishwa, la corruption, des choses comme ça. Donc il dit que la stabilité de la religion, c'est par la propagation de la science. La propagation de la science. Et ça, ça permet, ça garantit la stabilité de la religion et des affaires mondaines, comme il a dit. Thabatu ad-dini wa ad-dunya. Hatta les affaires mondaines. La nasi, il y a la religion qui est propagée. Le voleur, il ne va pas voler. Il saura que si jamais il vole, voilà la sentence, voilà la peine légale qui sera appliquée. Et ton frère va te rendre ta dette. Parce que si tu te présentes devant le tribunal, devant un juge qui juge avec la loi d'Allah, il va te donner ton droit. Et ainsi, les droits seront préservés dans la religion et dans les affaires mondaines. Je vous cite un exemple. Un seul exemple que j'ai vécu moi-même. Je n'ai jamais vu en Arabie Saoudite quelqu'un qui fait une défamation de quelqu'un, qui le dénigre dans son honneur en accusant sa mère ou un membre de sa famille par zina. Je n'ai jamais entendu ça. Les gens ne font jamais ça ici. En tout cas, devant les gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent, s'ils le font, ils connaissent les conséquences. Amma, tu vas dans le Maghreb, Annie, c'est du matin au soir, les gens. Ils l'insultent par sa mère. Ils dénigrent sa mère par la fornication. C'est une monnaie courante. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de peine par rapport à ça. Et aussi le meurtre. Ce n'est pas quelque chose qui est répandu en Arabie Saoudite. C'est rare. Là, si tu tues quelqu'un, ils vont t'appliquer la peine légale. Et tu l'as déjà vu avec tes propres yeux dans une place publique. Et moi, j'ai déjà assisté à ça. Dans une place publique. Allahu Akbar. Quel bienfait immense. Quel bienfait immense de préserver les vies par ce moyen. Car la dureté dans les sentences légales, c'est dans l'apparence, mais en profondeur, c'est une immense miséricorde. Ça préserve le sang des gens, des innocents. Et celui qui paye, c'est le criminel. Ici à Ikhwa, un autre exemple que vous avez certainement vu, même si vous venez Flumra. Là, vous allez faire le change de vos euros. Vous avez vu ces petits bureaux accessibles à tout le monde, avec des millions posés par terre. Alors, comparez ça à ce qui se passe en Europe, où l'argent est placé dans des coffres-forts et gardé par des machins, des hadiths, des alarmes, sécurité, et malgré ça, ils arrivent à pénétrer, à voler. Et là, ils posent ça devant tout le monde, les gens, ils passent, arrivent, ils sortent le... Et ils donnent comme ça devant les gens. Pourquoi ils ne volent pas? Est-ce qu'il n'y a pas l'envie de prendre l'argent? Qu'il y a des gens mauvais partout. La terre ne sacralise personne. Là, quand la loi d'Allah est mise en application, ça préserve les intérêts religieux et les intérêts mondains. Les viols, le nombre de viols qu'il y a en Europe et le nombre de viols, pourquoi ils ne montrent pas ces vérités? Le nombre de viols qu'il y a en Arabie Saoudite et le nombre de viols qu'il y a dans les autres pays, même dans l'islam. C'est pas pareil. Les vols, les cambriolages, tu laisses ta voiture tout le temps la porte ouverte, tu fermes jamais ta voiture. Alors, laisse ta voiture, déjà, ben, en tout cas au Maroc, Allah moustahil. Tu la mets dans le garage avec la clé, il y a des risques, le lendemain, tu te réveilles, tu ne la trouves pas dans le garage. Et là, tu laisses ta voiture dehors, sans fermeture. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les causes, bien évidemment. Lakin, c'est la réalité. C'est une réalité qui n'est pas montrée en Europe. On essaie de montrer des choses que eux ils estiment négatives, ça peut l'être, et ça peut ne pas l'être. Taïf. Ensuite, l'imam Zuhri a dit, pour terminer sa citation, il a dit, « Et avec la disparition de la science, c'est l'ensemble de tout cela qui s'évanouit, qui disparaissent. Et avec la disparition de la science, c'est l'ensemble de tout cela qui disparaîtra. Il y a ni les intérêts religieux, les intérêts mondains, quand il n'y a plus la science. Les gens, ils vont agir d'eux-mêmes, selon ce que leur passion leur dicte. Il ne revient pas à « Qala Allah, Qala Rasul ». Regardez quand il y a l'anarchie dans un pays, dans une rue ou là. Les gens, ils vont casser les magasins, ils vont prendre les gâteaux, le gâteau qu'il a toujours rêvé de manger. C'est l'occasion. Ils vont piller les magasins. Où est-ce que donne l'éloignement de la religion? Troisième citation, c'est la parole de l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, sahib sunan. Ouf, batterie. Taïb, alhamdoulilah, chouette. Il dit dans l'introduction de son authentique Sahih ibn Hibban, il dit, certes, dans l'attachement indéfectible à la sunna du prophète alayhi sallam, inna fi luzumi sunnatihi sallallahu alayhi sallam, tamam as-salama wa jima' al-karama. Dans l'attachement indéfectible à la sunna du prophète alayhi sallam réside le salut complet et le summum de la noblesse. La tutfa usrujuha, les flambeaux de la sunna ne sauraient s'éteindre et ses arguments ne sauraient être réfutés. Quiconque s'y conforme est préservé et quiconque s'en écarte est pris de remords, car elle est la forteresse imprenable. C'est le pilier inébranlable dans le mérite et manifeste et le pacte solide. Quiconque s'y attache fermement prévaudra, et quiconque cherche autre chose périra. Ainsi, ceux qui s'y agrippent sont les gens de la félicité dans l'au-delà. Ceux qui se cramponnent, ceux qui s'attachent à la sunna, seront les gens de la félicité dans l'au-delà. Et ceux qui sont enviés par leur bien-être parmi les créatures dans la vie présente. Voilà comment il a décrit la sunna du prophète sallam dans l'introduction de son livre, avant de commencer à citer l'ahadith. Et comment il a décrit ceux qui s'attachent à cette sunna du prophète sallam. La quatrième citation, c'est celle de l'imam Ibn Qudama, dans son livre « Dhammul Waswisin », le blâme, le blâme de Al-Muwaswisin, de ceux qui ont l'waswas, qui sont touchés par les insufflations sataniques. Et ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de le faire entièrement, car il est très bénéfique pour nos frères et sœurs qui sont touchés par l'waswas. Il décrit la maladie, il donne les remèdes dans ce livre. Il dit dans ce livre, il dit « وَفِي اتِّبَاعِ السُنَّةِ بَرَكَةُ مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ » Il y a certes dans l'attachement à la sunna du prophète عليه السلام, la bénédiction de la conformité à la législation divine, sharia, et l'agrément du Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui, et l'élévation en degré, et le repos du cœur, et la quiétude du corps, le refoulement du diable, son humiliation, l'humiliation du diable, de shaytan, et le suivi de la voie droite, car c'est ça la voie droite, c'est de suivre le Coran et la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. L'avant-dernière citation est celle de l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit, rahimahullah, dans son livre Al-Fawa'id, un livre précieux, magnifique, concis, qui contient des sagesses. Il dit dans ce livre, أَقْرَبُ الْوَسَائِلِ إِلَى اللَّهِ مُلَازَمَةُ السُنَّةِ. Il dit, أَقْرَبُ الْوَسَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُلَازَمَةُ السُنَّةِ. Le moyen le plus court pour arriver auprès d'Allah, sain et sauve, est de se cramponner à la sunna. وَالْوُقُوفُ مَعَهَا فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. Et de s'arrêter avec la sunna dans l'apparence et dans l'intérieur. وَدَوَامُ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ. Et la constance dans notre dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours sentir qu'on est dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce besoin que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute chose. Pour respirer une seule fois, tu as besoin d'Allah. Pour inspirer une seule fois, tu as besoin d'Allah. Tu as besoin d'Allah dans toute chose, mais on l'oublie. À cause de l'insouciance et la distraction. Tu ne peux rien sans Allah. وَإِرَادَةُ وَجْهِهِ وَحْدَهُ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ. Et de vouloir uniquement sa face et sa satisfaction avec tous nos propos, toutes nos paroles et tous nos actes. Et personne n'est arrivé auprès d'Allah à des degrés très élevés qu'avec ces trois choses. Qu'avec ces trois choses. C'est quoi les trois choses? Se tenir à la sunna, dans l'apparence et dans l'intérieur. Il ne suffit pas de s'attacher à la sunna dans l'apparence, alors que l'intérieur est corrompu, est malade. Et ça, c'est la cause de la plupart des problèmes que vous constatez entre les suiveurs de la vérité. C'est des maladies du cœur. Donc il ne suffit pas d'être dans la sunna, dans l'apparence, et d'avoir un cœur malade, un cœur rempli de tricherie et de corruption et de mauvaises choses pour les musulmans. Nous devons suivre le prophète A.S. dans l'apparence et dans l'intérieur, dans la miséricorde qu'il avait pour la Ummah également, et dans son attachement à leur guider, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a blâmé par rapport à cela. Alayhi salatu wa salam. Donc, le premier point qu'il a cité, c'est l'attachement à la sunna. Et de se tenir à la sunna. Ne pas faire plus. Si tu peux faire toute la sunna, c'est impossible. Lakin, si tu veux, fais ce qui a été rapporté de Nabi Rasulullah. Tu trouveras un enseignement, tu trouveras une adoration du prophète pour chaque instant de ta vie. Alors pourquoi aller chercher des innovations qui t'éloignent d'Allah ? Mais c'est Shaitan qui embellit pour les gens les innovations. Tu l'appelles un sunna, il a le fainéantisme, il a la paresse, il a « oui, demain, on va voir ». Et une innovation, il va en courant. Shaitan, il le pousse. Sunna, on trouve du mal. Là, je parle de nous, Annie, de moi. On sait que c'est un bien, on sait qu'Allah l'aime. Lakin, on est combattu par Shaitan, par nafs. Amma la bid'a, il y a une passion dans le bid'a. Et Shaitan l'embellit. Et te pousse à aller vers lui. Ouais, il te réveille. Il te réveille pour faire une bid'a. Pour faire qiyam al-layl, sunna, non. Il dit dors, 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 comme ça a été rapporté dans le hadith. C'est pour ça, ikhwa, sunna. Le deuxième point, c'est fondamental dans la religion de l'islam de sentir en permanence la dépendance d'Allah. Ça, c'est parmi les plus grandes adorations qui existent en islam. Il y en a quelqu'un qui est dans un sentiment de dépendance d'Allah permanent. Jamais il ne va attribuer un bien à sa personne. Il est loin de une des plus grandes maladies qui fait périr les gens. L'ujb. L'ujb. L'autosatisfaction. L'émerveillement par soi-même. Oui, j'ai fait, j'ai fait. À chaque fois que tu commences à parler comme ça, c'est un signe d'alarme pour toi. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Tu n'as rien fait. Demande à Allah de te sauver. Cheikh l'islam, jusqu'à la fin de sa vie, il demandait quoi à Allah subhanahu wa ta'ala? Il demandait à Allah an yusahhiha lahu di islamahu. An yusahhiha lahu islamahu. Ya Allah, sahih li islami. Que mon islam soit authentique. Que mon islam soit valide. Adouhumma, les gens qui ont cette dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur cœur réellement. Lana, c'est facile d'en parler. Lakin, est-ce qu'elle est bien dans le cœur? Est-ce que tu te dis pas quelque part, oui, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi qu'ils ont fait ça? C'est grâce à moi que ça tient encore? Est-ce que tu te dis pas ça? Si tu te dis ça, allez, revois. Et alhamdoulilah, dunya, c'est un chemin vers Allah dans lequel tu te réformes et tu t'améliores. Donc ça, c'est la deuxième. Et le troisième? Ah là là, la troisième. C'est de ne vouloir par tout ce que tu dis et tout ce que tu fais que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis pas une chose pour que les gens t'admirent. Tu dis pas une chose pour que les gens disent qu'est-ce qu'il est éloquent. Et tu ne fais pas quelque chose pour plaire à la créature. Tu cherches uniquement à plaire à Allah. Et ah, si t'arrives à ces trois choses-là, c'est que tu es arrivé au summum de la montagne et que ton nefs est devenu en dessous de ton talon. Tu t'as écrasé ton nefs et tu as commencé enfin ton acheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a tant que tu n'es pas arrivé au summum de la montagne, tu es encore dans des galères et dans des guerres contre ton propre nefs. Contre ton propre nafs. Lakin, quand est-ce que le vrai chemin commence vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand cette montagne qui est nafs devient en dessous de tes pieds. Yani, jamais tu vas détester quelqu'un parce qu'il t'a critiqué. Jamais tu vas aimer quelqu'un parce qu'il a fait tes éloges. Jamais tu... Hada huwa, vraiment le croyant, comme on dit salaf, الذي يستوي عنده ذامه وحامده. Lakin, on est où par rapport à ça? On parle de nous-mêmes. On est où par rapport à ça? On rapproche les gens qui nous font des éloges. Et on éloigne les gens qui nous critiquent. La dernière citation qu'il a mentionnée, c'est celle de l'imam Ibn Rajab, dans laquelle il dit, Ibn Rajab, le grand imam, Rahimahullah, le grand imam salafi, il dit dans son livre Fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf. Ce livre, il est très très important pour chaque salafi de le lire. Et Cheikh Abdallah al-Bukhari, il a expliqué ce livre entièrement. dans lequel l'imam Ibn Rajab parle du mérite de la science des prédécesseurs, des pieux prédécesseurs, sur celle des successeurs, ceux qui sont venus après. Et dans ce livre, il dit le mérite de la science des prédécesseurs. Dans ce livre, il dit les meilleures sciences relatives à l'exégèse du Coran, tafsir. Donc, il parle des sciences les plus méritoires. Bien évidemment, la science la plus méritoire, c'est celle qui te permet de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, cette science, tu ne peux pas arriver à cette science jusqu'à ce que tu aies les autres sciences, les outils qui te permettent d'arriver à cette science qui est le summum. Dans la science de tafsir, toutes les sciences se réunissent. Un mufassir, forcément, il est brillant, il est excellent dans les sciences de la langue arabe. Forcément, il a la science du hadith. Forcément, il a la science de l'aqidah, de tawhid. Il a toutes les sciences, le fiqh, tout est dans le Coran. Donc ça, c'est la première science qu'il a mentionnée. Ensuite, la science qui te permet la compréhension du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, celle qui te permet de connaître al-halal et al-haram, le licite et l'illicite. Ça, c'est le fiqh, la science de le fiqh. Il a cité d'abord la science qui te permet de comprendre la parole d'Allah, ensuite la science qui te permet de comprendre la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et en troisième lieu, il a mentionné la science qui te permet de connaître la législation d'Allah. Ce qui est halal, ce qui est haram. Là, les savants, comme Salaf ont dit, ils ont dit, les savants sont de plusieurs catégories et ils ont mentionné le meilleur d'entre eux, c'est celui qui a la science d'Allah et la science de sa législation. C'est-à-dire, il craint Allah, il connaît sa loi. Il va agir en fonction de la loi d'Allah. Il y a des gens qui ont la crainte d'Allah, là qui n'y connaissent pas sa loi. Ils ne connaissent pas sa législation. Il va faire une chose en pensant qu'il se rapproche d'Allah alors qu'il s'éloigne d'Allah. C'est pour ça ce qui est demandé pour le savant, c'est pas seulement d'avoir la science d'Allah, sa crainte, son amour, mais aussi d'avoir la science de sa loi et de sa législation, qui est al-fiqh, la jurisprudence. Taïb. Ensuite, il a dit « Ma kana ma'thouran anis sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim » إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. Donc les meilleures de ces sciences sont celles qui ont été transmises traditionnellement d'après les compagnons, as-salaf, ainsi que les successeurs tabi'in et leurs disciples, jusqu'à aboutir à l'époque des célèbres imams de l'islam qui servent de modèle et que nous avons nommés précédemment, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Layth ibn Sa'd, et ainsi de suite, l'imam Al-Awza'i. Il parle de ces imams, il les a mentionnés avant. Ensuite, il a dit, dès lors, consigné avec précision ce qui a été rapporté d'eux à ce sujet, constitue la meilleure des sciences. La meilleure des sciences, c'est celle qui a été rapportée de Salaf, des compagnons et de ceux qui les ont suivis. À condition d'en comprendre le sens. Donc il n'est pas question de rapporter leurs citations sans les comprendre. À condition de comprendre le sens et de le méditer et d'en saisir la substance juridique. Ensuite, il a dit. Et ce qui est survenu après eux, il dit, la majeure partie de ce qui est survenu après ces générations n'en comporte aucun bien. Allahu Akbar. À moins qu'il ne s'agisse, quand est-ce que c'est un bien? Ceux qui sont venus après ces générations, quand est-ce que ce qui est rapporté d'eux, c'est un bien? D'une manière générale, ça ne comporte aucun bien. Là, quand est-ce que ça va être considéré comme un bien? Il dit, à moins qu'il ne s'agisse d'une explication se rapportant textuellement à leurs propos. Donc quelqu'un qui va t'aider à comprendre la parole de l'imam Malik. Ça, c'est un bien. En revanche, tout ce qui s'oppose à leurs paroles est pour la plupart caduque ou dénuée d'utilité. Ainsi, on ne trouve aucune vérité dans les propos des générations ultérieures sans qu'elle ne figure déjà dans les leurs, yani dans les propos de Salaf, formulés dans les termes les plus concis et l'expression la plus brève. Là, ceux qui sont venus après, ils vont détailler. Et c'est ça qui a induit les gens en erreur. Et ça, je l'ai entendu de quelqu'un qui m'a dit, en parlant d'un égaré qui est décédé, qu'Allah lui pardonne, en Égypte, il m'a dit, ce cheikh, il a un rang plus élevé que cheikh Abd Mohsin Al-Abbad. Je lui dis, pourquoi ? Il m'a dit, quand il explique un hadith, il peut mettre des cours et des cours. Cheikh Al-Abbad, on lui lit le hadith, en 3 minutes, il le commente, en 1 minute, et il passe au suivant. Donc quand tu lis ce livre de l'imam Ibn Rajab, tu comprends que la science, ce n'est pas de parler longuement et d'une manière extrêmement détaillée. Ce n'est pas ça forcément la science. Il peut y avoir un intérêt dans cela. Lakin, le but, c'est de comprendre ce que le Nabi ﷺ te dit. C'est ça le but. Lakin, ces gens ont cru que celui qui parle, qui détaille plus, a plus de science. Celui qui est plus éloquent a plus de science. Vous savez que vous pouvez trouver des grands savants qui ne sont pas éloquents. Quand ils parlent, ils ont du mal, ou là, ils n'arrivent pas. Ça existe chez les hommes de science. Des savants qui ne donnaient pas de cours, alors que c'est des très très grands savants. Ils disent, on a connu leur science par leurs ouvrages et par leurs écrits. Et le Hafidh ibn Hajar, il cite plusieurs de ses chouyours qui ont cette caractéristique, qui étaient des très très grands savants, lakin quand il était question de débattre, de hadith, de faire un exposé, yani on ne voyait pas sa science. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est plus éloquent, ce n'est pas parce que quelqu'un a plus de mémorisation, ce n'est pas parce que quelqu'un, quand il parle d'une question de fiqh, il va parler pendant 3 heures, qu'il a plus de science que les grands savants. Ensuite, il dit, en revanche, tout ce qui s'oppose à leurs paroles est pour la plupart caduque ou dénué d'utilité. Ainsi, on ne trouve aucune vérité dans les propos des générations ultérieures sans qu'elle ne figure déjà dans les leurs, formulée dans les termes les plus concis et l'expression la plus brève. De même, aucune fausseté n'apparaît dans les dires de leurs successeurs sans qu'il n'y ait dans leurs propres paroles de quoi ont démontré l'invalidité. Yani à chaque fois qu'il te tu trouves une erreur chez les générations qui sont venues après, tu trouveras sa réfutation dans les paroles concises de Salaf. Lakin, pour qui ? Il a dit, pour quiconque les comprend et les médite. Pas pour tout le monde. Ensuite, il a dit, on trouve également dans leurs enseignements des sens d'une subtilité remarquable et des déductions d'une finesse telle que les générations suivantes ne sauraient y parvenir ni les appréhender. Par conséquent, quiconque ne puise pas la science de leurs paroles se voit privé de l'intégralité de ce bien, tout en s'exposant à sombrer dans de nombreuses erreurs par simple suivi de ceux qui sont venus après eux. Il poursuit. Quiconque aspire à compiler leurs enseignements doit impérativement être en mesure d'en distinguer ce qui est authentique de ce qui est défectueux, de ce qui ne l'est pas. Et cela requiert la maîtrise de la science, de la critique et de l'agrément. Ilm al-jarh wa ta'dil. Au sujet des transmetteurs. Ainsi que celle des vices cachés dans des textes, ce qu'on appelle l'ilal. Cette science dans laquelle l'imam ibn Rajab a excellé. Et très rare, les muhaddithines qui ont excellé dans cette science. Parmi les muhaddithines, c'est très rare ceux qui ont excellé dans la science de l'jarh wa ta'dil. Et de l'ilal en particulier. Et l'imam ibn Rajab, c'est un savant qui a excellé dans la science de l'ilal. C'est pour ça qu'il a expliqué l'ilal de l'imam Tirmidhi. L'imam Ibn Rajab a expliqué Sunan Tirmidhi. Lakin, ils disent, il ne nous est parvenu de ce livre que son explication de l'ilal. Le reste est perdu. Il y en a qui disent que ça a été dévoré par des vers ou là, des choses comme ça. Le Moïm, en tout cas, on ne l'a pas eu. Et on a eu une partie de son explication de Sahih al-Bukhari, qu'il a appelé Fath al-Bari. Certains disent que le Hafidh ibn Hajar s'est inspiré de lui, car il l'a précédé. Il a rapporté de lui dans son Fath al-Bari de l'imam ibn Rajab, dans deux passages. Taïb. Il dit « Quiconque aspire à compiler leurs enseignements doit impérativement être en mesure d'en distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Et cela nécessite la maîtrise de la science, de la critique et de l'agrément des transmetteurs, le jarh wa ta'dil, ainsi que celle des vices cachés, l'ilal. Quiconque ignore ces disciplines ne peut avoir pleine confiance en ce qu'il rapporte. Et la vérité s'embrouillera pour lui avec le faux. » À notre époque, il dit, il devient indispensable de consigner par écrit les paroles des imams parmi les pieux prédécesseurs, pris pour modèle, et ce, jusqu'à l'ère de l'imam Shafi'i, Ahmad, Ishaq et Abu Ubaid, Qasim ibn Sallam, que l'homme demeure donc sur ses gardes face aux innovations apparues après eux, car d'innombrables alternations se sont produites par la suite. Et c'est pour ça Ibn Rajab, il avait cette particularité, dans les livres qu'il a fait, il citait uniquement les salafs. Il citait jamais, presque jamais, les contemporains. Il citait l'imam Malik, l'imam Shafi'i, que les grands imams. Dans tous ces livres, vous allez trouver que c'est comme ça. Donc ce qu'il dit là, il l'a mis en pratique. Et à la fin de cette citation, Cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, il dit « Fa'asalullah bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu warda » Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus sublimes de nous accorder à tous la réussite dans ce qu'il agrée, qu'il fasse de nous des êtres bénis, où que nous soyons, qu'il nous raffermisse sur la voie de l'islam et de la sunna, qu'il reprenne nos âmes à lui sans que nous ayons succombé à la tentation et qu'il nous adjoint à ses vertueux serviteurs. Certes, il est généreux, il est miséricordieux, odiant et prompt à exaucer, et que les éloges et le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le messager d'Allah, alayhi salam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et quiconque les suit avec rectitude jusqu'au jour de la rétribution. Et la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi ala al-tamam. Wa nas'aluhu al-qaboul. Nous lui demandons d'accepter de nous cet effort modeste et de nous raffermir sur la sunna de notre prophète jusqu'à le rencontrer et de nous maintenir sur la voie claire sur laquelle nous a laissé notre prophète alayhi sallam, tawhid, et sur sunna de Nabi alayhi sallam, et de nous prendre et de prendre notre âme sur cette voie, sans avoir rien altéré de notre religion et de la tradition de notre prophète bien-aimé. Et un dernier conseil pour moi, ainsi qu'à mes frères, c'est de persévérer sur cette voie de la demande de science. La demande de science, c'est jusqu'à ce que l'âme quitte le corps. Et en particulier, la science la plus importante de l'islam, la science de Tawhid, à travers laquelle nous apprenons à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître ses droits sur nous, subhanahu wa ta'ala. Cette science doit continuer avec le serviteur jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit jamais se voir qu'il est arrivé à un degré où il se passe de l'étude de cette science. Ça, c'est le début de l'ignorance et du danger pour sa foi. Il a toujours besoin d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous recommande également l'entraide entre vous dans le bien. L'entraide pour propager ce que vous apprenez. L'entraide pour appeler ceux qui n'ont pas connu ce bien, ceux qui n'ont pas encore cette envie d'apprendre leur religion, de les appeler de la meilleure des façons, avec les paroles douces, bil kalimati tayyiba, les bonnes paroles, les paroles douces, car ça c'est la règle de base dans la da'wa. La dureté, elle est exceptionnelle en islam. La règle de base, c'est la douceur. Et la règle de base également chez les gens, c'est qu'ils acceptent le bien. Donc il suffit de les appeler de la meilleure des façons, et de toute manière, l'acceptation appartient à Allah. Là, qu'il nous incombe de les orienter de la meilleure des façons et de leur faciliter l'acceptation du bien, l'acceptation de la vérité. Et c'est Allah qui guide, qui il veut, par sa sagesse absolue. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.